Vous êtes sur RTL.
Depuis décembre 1968, le Zodiac, dont voici le portrait robot, a tué 7 personnes et on sait que c'est lui car il écrit régulièrement à la presse pour annoncer ses crimes.
Bonsoir, il n'est pas le tueur en série le plus meurtrier de l'histoire, même si le nombre exact de ses crimes demeure aujourd'hui encore inconnu, mais il est très certainement le plus énigmatique, le plus sadique, le plus astucieux des assassins ayant terrorisé la Californie et l'Amérique à la fin des années 60. 50 ans après son premier meurtre, ce tueur solitaire n'a jamais été identifié. Il a pourtant revendiqué ses actes, de nombreuses lettres adressées à la presse pour se vanter de ses crimes. Des lettres qui commençaient toujours par la même phrase « C'est le Zodiac qui vous parle ». Référence confuse à l'astrologie, à la cartomancie, à la mathématique. Des courriers où il se félicite, intimide, menace de frapper à nouveau des innocents et soumet des devinettes, des cryptogrammes, des tableaux codés, suite de lettres, de chiffres et de signes cabalistiques, censés donner la clé de l'énigme, dévoiler l'identité exacte du tueur du Zodiac. 50 ans qu'une armée de policiers, du FBI, d'experts, de chercheurs, de mathématiciens et d'informaticiens s'efforcent de décrypter ces messages. L'un d'eux, le plus compliqué, a été mis au jour enfin au mois de décembre. Que dit-il ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette heure du crime. Le tueur du Zodiac, 50 ans de cache-cache, va-t-on enfin connaître la vérité ? L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
RTL.
20h, 21h. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, le tueur du Zodiac. Une incroyable énigme policière. Un jeu de pistes qui commence à l'hiver 1968 en Californie, dans un coin bucolique, tout près de la petite ville de Benicia. Il est près de 23h15, cette nuit du 20 décembre 1968, quand un couple de jeunes amoureux, David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, flirtent à l'intérieur d'une voiture. La route du lac Herman et ses petits parkings dissimulés dans la végétation est depuis toujours un théâtre propice aux aventures sentimentales. Alors que le silence règne sur ce coin retiré, un homme s'approche à pas compter du véhicule. Il sort une arme, un pistolet semi-automatique, et fait immédiatement feu sur la carrosserie. Dans son rapport, le capitaine Pita du bureau du shérif du comté de Solano explique que le tueur a voulu ainsi faire sortir le couple du véhicule. Il y parvient effectivement sans difficulté. Betty Lou Jensen est la première à vouloir s'enfuir. Elle s'éjecte côté passager. Elle est aussitôt foudroyée, abattue de 5 balles dans le dos. David Faraday ne va pas beaucoup plus loin. Lui aussi est touché par une salve de projectiles. Des balles de calibre 22, munitions de la marque Winchester, chemisées de cuivre. Des balles à haute vitesse, utilisées notamment pour la chasse aux renards. Le bureau du shérif est prévenu du drame. Une quarantaine de minutes plus tard, une jeune femme habitant le coin, Stella Borges, a entendu la fusillade et s'est rendue sur place avant de téléphoner. Sur les lieux, les enquêteurs découvrent une scène de crime qui s'apparente à une exécution. Rien n'a été volé, ni dans le véhicule, ni dans les affaires des victimes. Aucune trace d'agression sexuelle. Le tueur a pris grand soin également de ne laisser aucune trace de son passage. Impossible de savoir comment il est arrivé ici, s'il attendait ses victimes ou si un coup de folie l'a conduit à abattre le jeune couple. Les morts de David Faraday et de Betty Lou Jensen ont tout du crime gratuit. Les familles des deux victimes ne comprennent pas pourquoi quelqu'un s'en est pris à leurs enfants. Deux jeunes gens qui se fréquentaient en tout bien tout honneur depuis quelques semaines. C'était la première fois que les parents de Betty Lou avaient d'ailleurs accordé une permission de sortie à leur fille. Aucune piste donc pour expliquer cette tragédie. La thèse selon laquelle le jeune David Faraday aurait été au courant d'un important trafic de drogue dans la ville de Benicia et aurait démasqué les auteurs, cette piste trop fragile, ne sera pas retenue. On sait seulement que 2 heures avant le double meurtre, une voiture de couleur claire, une Chevrolet Impala, s'est approchée de deux autres jeunes amoureux. Ils ont eu peur et ont déguerpi. Le tueur était sans doute déjà sur son terrain de chasse. Bonsoir Thomas Cantaloube.
Bonsoir.
Vous êtes ancien journaliste pendant 10 ans, correspondant pour la presse française aux États-Unis et désormais auteur de polar et scénariste. Vous êtes ce soir notre premier invité au téléphone de l'heure du crime. Alors, il faudra attendre quelques mois pour qu'on ait confirmation que ce double meurtre est bien l'œuvre de celui qui va s'appeler lui-même le tueur du Zodiac. On va évidemment faire connaissance avec cet homme. Mais je voudrais tout de suite vous poser une première question, Thomas Cantaloube. Vous qui connaissez bien cet endroit, cette région et ce pays, à quoi ressemble ce bout de Californie qui est assez sauvage, je crois?
Oui, c'est ça, en fait. C'est pas très loin de San Francisco, mais ça n'a rien à voir avec la grande ville culturelle, artistique qu'est San Francisco. C'est un bout de semi-désert. C'est la grande ville à côté qui s'appelle Vallejo est un port où il y a pendant longtemps il y avait beaucoup de bateaux qui déchargeaient là-bas au fond de la baie de San Francisco. C'est une cité ouvrière. C'est un peu un bout de nulle part en quelque sorte au bord de la baie de San Francisco.
Donc c'est un bout de nulle part, comme vous le dites si bien, c'est-à-dire qu'on peut y agir de manière quasiment impunément, j'allais dire. Je viens d'évoquer, Thomas Cantaloube, vous avez écouté ce premier récit, cette scène de crime. Qu'est-ce qu'on peut en dire comme ça? C'est un crime brutal, c'est ça, c'est inattendu?
C'est un crime brutal, inattendu. La police ne trouve pas d'indices, rien. Au bout de quelques mois, en fait, la police de Vallejo, qui, par ailleurs, on a appris depuis des années, est une police extrêmement puissante, extrêmement bien payée, mais aussi extrêmement feignante, ne trouve rien. Donc, au bout de quelques mois, on se dit, c'est juste un crime irrésolu, comme il y en a tant, avant la deuxième série de crimes. Et c'est là qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'affaire du Zodiac démarre vraiment.
Bien sûr. Alors, ce que vous nous dites, Thomas Cantaloube, c'est que finalement, au début, les policiers, alors c'est tout de même deux jeunes gens de plutôt de bonne famille, mais les policiers prennent plutôt ça à la légère, on peut le dire comme ça.
Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'indices. C'est un bout de route qui mène au bord d'un lac, mais qui est très peu fréquenté, hormis par les amoureux du coin qui vont se bécoter dans leur voiture à l'époque. Voilà, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a pu voir dans les films comme American Graffiti, par exemple. Les jeunes prennent leur voiture, s'éloignent un peu de leur famille, et puis vont se bécoter sur la banquette arrière dans un endroit de campagne. Et donc, un meurtre qui se produit là, il n'y a pas de témoin. Le criminel n'a visiblement laissé aucun indice en évidence, donc les policiers sont vite désemparés. Et puis 68, début 69, il n'y a pas l'ADN, il n'y a pas toutes les techniques auxquelles on est habitué de scènes du crime. C'est comme si un meurtre à l'arme à feu, il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de résidus, il n'y a rien.
Stéphane Berthomé, vous êtes notre invité ce soir, deuxième invité dans l'heure du crime, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime depuis le Canada où vous vivez. Vous êtes ancien officier de police, je le précise parce que c'est important, animateur du podcast documentaire L'Ombre du Doute, qui enquête sur des affaires criminelles non résolues au Canada. Et vous connaissez parfaitement ces tueurs en série. Un petit mot, Stéphane Berthomé, vous qui êtes spécialiste, qui avez été policier très longtemps, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là dès qu'on découvre une telle scène du crime? On va regarder tout de même les personnalités des victimes, ça c'est très important.
Alors en fait, ce que font les policiers, surtout à l'époque, parce qu'on se place dans les années 68, 69, 70, ce que font les policiers surtout, c'est les constatations. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver des indices sur place, notamment dans les cas de crimes par arme à feu, on essaie de vérifier si par exemple on trouve des douilles qui sont éjectées par une arme à feu quand il s'agit d'un pistolet automatique. On fait des constatations sur le véhicule, sur les impacts, on recherche les munitions qui ont été tirées. Et donc c'est surtout à l'époque des constatations très très basiques. Effectivement, on s'intéresse aussi aux victimes et on essaye de voir s'il y a un lien entre les victimes et le meurtrier. Et c'est d'ailleurs un élément central dans ce type d'affaires, c'est que à la grande différence d'une immense majorité des affaires criminelles, les tueurs en série, la plupart du temps, tuent des gens avec lesquels ils n'ont pas de lien direct. Et c'est ce qui rend les enquêtes très compliquées.
C'est ça. Et surtout, alors, ce qui rend aussi l'affaire en question assez compliquée, même si là, pour l'instant, j'ose dire, on est entre guillemets, il n'y a que deux personnes abattues, deux meurtres. Ce qui rend cette affaire aussi si singulière et si compliquée, c'est que ce tueur, qu'on ne connaît pas encore, il laisse aucune trace derrière lui.
Oui, mais c'est souvent le cas d'abord des crimes de cette époque-là où, comme le disait votre invité, il n'y a pas d'ADN, les prélèvements d'empreintes digitales sont rendus compliqués, sont assez difficiles et hasardeux. Il y a très peu d'éléments. Et vous savez, il y a une mythologie hein, de l'affaire criminelle qui est souvent véhiculée par les films et par les séries télé. En réalité, ce qui compte dans une enquête criminelle, ce sont les constatations sur le terrain. Ce sont les premiers témoignages qui sont faits aux policiers et la capacité qu'ont des policiers à bien identifier les éléments importants pour la suite de l'enquête. Et dans ce type de dossier-là, surtout à cette époque-là, avec les moyens dont disposaient les policiers, eh bien tout ça est rendu bien mince et ça explique beaucoup de choses dans ce type de dossier-là.
Ça explique le fait que effectivement l'affaire va continuer et un petit peu s'étendre. Alors quelques mois vont passer jusqu'à ce qu'une deuxième attaque livre les clés de la première et qu'un personnage se dessine derrière ces assassinats, la silhouette d'un homme qui se présente comme le tueur du Zodiac et annonce une campagne de terreur. Le tueur du Zodiac, sur les pas d'un assassin invisible. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime consacrée ce soir au tueur du Zodiac. 7 mois après le double meurtre de Benicia, une deuxième attaque est signalée à quelques kilomètres de là. Même mode opératoire, même folie meurtrière. Mais cette fois, l'auteur va se manifester. Le samedi 5 juillet 1969, vers minuit 10, le poste de police de Valero est alerté d'une fusillade à Blue Rock Springs Park, un lieu de promenade à la sortie de la ville. Un inconnu a fait feu sur un couple qui se trouvait à bord d'une voiture. Les enquêteurs se rendent sur place. Ils découvrent le corps de Darlène Ferrin, une serveuse de 22 ans abattue de 5 balles de calibre 9 mm tirées en rafale et à courte distance. La jeune femme est morte rapidement. L'homme avec qui elle se trouvait, Michael Majot, un ouvrier de 19 ans, a lui été touché à 4 reprises. Il est grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Les policiers font naturellement le lien avec le double crime précédent. En décembre, la scène est identique, même si dans le cas présent, Darlène Ferrin est une femme mariée qui trompe son mari. Ce dernier est tout de suite suspecté, mais à l'heure du crime, il officiait au restaurant César où il est cuisinier. Opéré et soigné pour ses blessures, le survivant, Michael Majot, raconte qu'il avait rendez-vous avec Darlène pour discuter dans ce coin isolé. À peine était-il arrivé qu'ils ont vu approcher un véhicule de couleur claire, une Ford ou une Chevrolet. Un homme en est sorti avec une lampe torche. Ils ont pensé qu'il s'agissait de la police et ont donc commencé à préparer leurs papiers d'identité. L'inconnu, les aveuglant avec son rayon de lumière, s'est approché d'un pas rapide de la voiture et a aussitôt ouvert le feu. Darlène s'est écroulée. Michael, touché à l'abdomen, s'est mis à geindre. Le tueur a alors fait demi-tour et a tiré 2 coups de feu supplémentaires sur chacune des victimes. Le rescapé décrit son agresseur, un homme blanc, entre 1m70 et 1m75, entre 20 et 30 ans, trapu, visage rond et cheveux bruns, un homme qui n'a prononcé aucun mot. Seulement 45 minutes après la fusillade, la police de Valero reçoit un coup de fil. Un homme revendique l'attaque. Il donne des détails précis et non divulgués sur la nature de l'arme, un pistolet automatique 9 mm. Il évoque également les meurtres précédents, ceux de David Faraday et Betty Lou Jensen, en livrant là aussi des précisions. Les enquêteurs sont alors convaincus qu'un seul et même homme est l'auteur des 2 attaques. Celui-ci n'en dit pas davantage. Il faut attendre 3 semaines supplémentaires, le 31 juillet, pour en savoir plus. Des lettres sont alors adressées aux 3 journaux locaux, le Valero Times Herald, le San Francisco Examiner et le San Francisco Chronicle. Le correspondant anonyme donne des détails inédits et joint un rébus à reconstituer. 1/3 d'un curieux cryptogramme adressé à chacun des journaux. Il assure que celui qui parviendra à déchiffrer ce tableau codé trouvera son identité. Il ne se présente pas encore à ce moment-là sous le nom qu'il va se choisir, le tueur du Zodiac. Stéphane Berthomé, vous êtes toujours en ligne depuis le Canada avec nous ce soir dans l'heure du crime, ce qui va expliquer le léger décalage qu'on peut entendre, que nos auditeurs peuvent percevoir. Vous êtes ancien policier, je le précise. Alors, je viens de parler de ces fameuses lettres qu'envoie celui qu'on va appeler le tueur du Zodiac à des journaux. Que disent ces lettres, finalement ? C'est un peu du charabia, non ?
Bien. En fait, ces lettres sont d'abord destinées à attirer l'attention sur le cas du tueur du Zodiac. On le verra d'ailleurs à plusieurs reprises, ce criminel-là est en recherche d'attention, il le dit lui-même, il demande d'ailleurs lui-même à ce qu'on publie ses lettres en première page, et il est déçu quand il se rend compte qu'on ne lui donne pas toute l'attention médiatique qu'il réclame, ce qui fait d'ailleurs, à mon sens, un des éléments qui fait que cette affaire sort de l'ordinaire. Uniquement dans le courrier, dans les premiers courriers, il parle des crimes, mais effectivement, il ne s'avance pas sur cette identité de tueur du Zodiac.
Alors, il y a un côté évidemment mégalomane chez lui, comme le sont souvent les tueurs en série. J'ai évoqué aussi dans le récit les fameux cryptogrammes. Alors ça, il faut Stéphane Berthomé, puis je reviendrai après avec Thomas Cantaloube là-dessus. Mais Stéphane Berthomé, expliquez-nous, c'est quoi ces cryptogrammes, ces espèces de tableaux ésotériques qui sont envoyés aux journaux?
Il s'agit en fait d'un code ou de plusieurs codes extrêmement complexes qui n'ont pas tous été décryptés à la date d'aujourd'hui. Et des codes qui sont censés révéler des informations sur les affaires et notamment donner l'identité du tueur du Zodiac, ce dont, à titre personnel, on spécule, hein, on s'entend bien que je n'ai pas eu accès au dossier, mais ce dont, à titre personnel, je doute un petit peu. Je pense que c'était très essentiellement destiné vraiment à attirer l'attention médiatique et que ça correspondait très certainement à des aspects psychologiques du meurtrier plus qu'à une réelle volonté d'entrer en communication avec les médias ou avec la police.
Alors oui, donc c'est le côté un petit peu intrigant, effectivement, même si on le verra et on verra au fil de cette émission que ces cryptogrammes ont été en partie dévoilés. Thomas Cantaloube, vous êtes notre invité dans l'heure du crime. Charles Manson et ses tueurs de la Family ne vont frapper que dans quelques mois. Hein. Je rappelle qu'on est en début 1969. Il y a beaucoup d'agitation à l'époque aux États-Unis. On commence à voir cette espèce de violence qui se dessine dans tous les coins de la société.
Exactement, c'est ce que beaucoup d'Américains ont appelé la fin de l'innocence, en fait. Alors, quand on connaît bien les États-Unis, c'est une expression qui revient souvent, la fin de l'innocence américaine, mais c'est vrai que les années 60, particulièrement la deuxième moitié des années 60, ont vu une libération incroyable, libération des mœurs, libération de la parole, le mouvement hippie. 1967, c'est ce qu'on a appelé le Summer of Love, l'été de l'amour à San Francisco, où des 100 000 personnes convergent dans la fumée des psychotropes et la danse pour fêter, célébrer un peu un nouvel âge américain. Ça, c'est 1967. Et puis, 1967-68, c'est aussi l'enlisement au Vietnam. La conscription, donc de plus en plus d'Américains, de jeunes Américains sont envoyés là-bas et la guerre n'apparaît pas encore comme perdue, mais elle apparaît en tout cas très difficile. Et puis, 1968, la mort de Martin Luther King, enfin l'assassinat plutôt de Martin Luther King, l'assassinat de Robert Kennedy, candidat à la présidentielle et qui aurait fait probablement affronter Richard Nixon, mais est assassiné. Et tout à coup, il y a un coup d'arrêt. Et surviennent ensuite, effectivement, ce tueur du Zodiac et Charles Manson dans l'année 1969.
Il va y avoir une série une série noire. Hein.
Exactement, c'est une forme de série noire et une époque aussi où aujourd'hui on parle de serial killer, de tueur en série, mais c'est un concept qui n'existe pas à l'époque. C'est quelque chose ça émergera 10 ans plus tard par rapport aux études du FBI, etc. Exactement. Mais à l'époque, c'est assez surprenant.
Oui. C'est le FBI effectivement qui une dizaine d'années plus tard va mettre ce concept au point avec une cellule restreinte de chercheurs auxquels personne ne croit à l'époque. Stéphane Berthomé, ancien officier de police, et vous êtes en ligne ce soir en direct dans l'heure du crime depuis le Canada, je le précise. Apparemment, vous parliez tout à l'heure d'un tueur effectivement mégalomane, quelqu'un qui aime beaucoup faire parler de lui. Apparemment, il a envie qu'un jeu s'installe avec la police. On peut voir les choses comme ça?
Ah oui, tout à fait, parce que on peut le constater très clairement dans les échanges de courriers qui ont été faits. Il interpelle d'ailleurs un des enquêteurs qui participe au dossier, dont il cite le travail en disant qu'on ne le retrouvera jamais. Mm-hmm. Il est très provocant. Je pense que tout ce jeu justement de communication entre le tueur du Zodiac, les médias et la police est en grande partie à l'origine de la fascination pour ce criminel-là en particulier, qui se démarque par cet exercice-là, mais qui ne se démarque pas d'autres tueurs en série qui ont œuvré malheureusement dans les États-Unis à partir de ces années-là jusque bien plus tard. Il est vraiment, lui, dans une logique de visibilité. On sent que dans les courriers qui sont envoyés, dans les messages qui sont envoyés, qu'il recherche l'attention à la fois du public et à la fois de la police.
Un tireur anonyme qui va continuer à faire parler de lui, mettant ses menaces à exécution et faisant souffler un vent de panique sur la Californie. Dans une lettre, l'assassin déclare « J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt. Tuer quelque chose me donne la plus excitante des expériences. » Le tueur du Zodiac, un homme insaisissable pour qui la mort est un jeu, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure du crime où nous explorons ce soir les meurtres du tueur du Zodiac. 4 personnes attaquées dans un coin tranquille de Californie, 3 morts et un rescapé. L'expédition sanglante se poursuit dans les semaines qui suivent avec un assassin qui prend de plus en plus de risques. Un peu plus de 2 mois après avoir tué la serveuse Darlene Ferrin et laissé pour mort son amant Michael Mago, celui qu'on va appeler le tueur du Zodiac rôde toujours en Californie aux portes de la Napa Valley, sur les rives du lac Berryessa, à 90 km de San Francisco. Dans ce coin isolé qui s'appelle Twin Oak Ridge, il a repéré un jeune couple, Brian Hartnell, 20 ans, et Cecilia Shepard, 22 ans, tous deux sont allongés sur une couverture et se reposent dans la douceur du soir. Il est un peu plus de 18h15 quand Brian voit s'approcher un homme portant une étonnante tenue. Une espèce de combinaison sombre qui a l'air mouillée et également une cagoule rectangulaire noire qui fait ressembler l'individu à un scaphandrier. Sur la poitrine figure un signe, une croix celtique ou plutôt une cible de tir. La cible du tueur du Zodiac. L'inconnu est armé, mais il ne fait pas feu. Il tient le couple en joue et se présente comme un détenu en cavale qui a besoin d'argent pour passer la frontière avec le Mexique. Brian Hartnell lui tend alors son portefeuille ainsi que la clé de sa voiture, mais l'agresseur ne les prend pas. Il continue à discuter pendant plusieurs minutes avec les deux jeunes gens, puis décide calmement de les ligoter avec une corde à linge. La fille attache elle-même les mains de son compagnon, puis celle-ci a à son tour les poignets liés. L'individu annonce alors au couple qu'il va les poignarder. Brian reçoit 6 coups dans le dos. Cecilia est frappée à 10 reprises dans le dos et dans l'abdomen. L'homme quitte les lieux alors que le couple agonise. Leur cri alerte une patrouille de Rangers qui se trouvait dans le secteur. Brian Hartnell survivra à ses blessures. Cecilia Shepard décédera 2 jours plus tard. La revendication du crime ne se fait pas attendre. Une heure après les coups de poignard, la police de la Napa Valley reçoit un coup de fil de revendication. L'interlocuteur explique qu'il veut signaler un double meurtre, celui d'un couple qui voyageait à bord d'un coupé Volkswagen Karmann de couleur blanche. « Je suis celui qui les a tués », affirme la voix. Le coup de fil a été donné depuis une cabine publique. Des empreintes sont relevées. Sur le lieu du crime, les enquêteurs notent la présence de traces de pas, des bottes de taille 44. Leur enfoncement permet de penser que l'inconnu pèse autour de 95 kilos. Celui-ci a également inscrit, gravé, un message sur la portière de la Volkswagen des victimes, les dates des attaques précédentes et le fameux signe du tueur du Zodiac, cette cible, un cercle frappé d'une croix. Thomas Cantaloube, notre invité ce soir dans l'œil du crime, ancien journaliste, et vous connaissez parfaitement les États-Unis, vous y avez très très longtemps travaillé pendant plusieurs années. Je suppose que là, la liste des victimes commence à s'allonger. La Californie est dans l'angoisse à ce moment-là. On en parle beaucoup de ce tueur du Zodiac.
On en parle énormément puisque en plus donc le tueur du Zodiac joue la carte médiatique en communiquant avec la presse, en incitant la presse à jouer avec lui. Il y a des portraits robots qui émergent puisque effectivement l'homme a été entreaperçu. Il y a cette cagoule qui l'a revêtu et pendant quasiment un an, enfin 1969-1970, la presse de San Francisco, qui comporte à l'époque 2-3 quotidiens, parle quasiment tous les jours de ce tueur. Et donc ça crée une sorte de psychose dans la ville. Et puis après, effectivement, ce qu'on avait dit, San Francisco, ville de l'amour libre, ville de la liberté, etc. Tout à coup, il y a une sorte de congélation, où ça se referme, les gens ont peur, les gens paniquent et... pour l'anecdote, ça donnera juste un an plus tard un film qui s'appelle Dirty Harry, l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, qui reprend un peu cette affaire et qui est un film profondément paranoïaque où c'est la peur sur la ville en quelque sorte. Les gens ont peur de sortir, les gens, les parents ont peur de laisser leurs enfants qui ont des amourettes partir en voiture se bécoter dans les lover's lane, etc. Donc oui, il y a vraiment un changement complet de l'ambiance californienne cool et détendue de quelques années plus tard vers une ambiance plus paranoïaque.
Alors le tueur du Zodiac qui inspire Dirty Harry et qui inspire le cinéma, il va continuer à le faire puisqu'il y aura vraiment beaucoup de films qui vont lui être consacrés, des ouvrages, de nombreux ouvrages, des livres. Stéphane Berthomé, notre invité, notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, j'ai raconté cette nouvelle scène de crime. Alors là, le scénario change presque complètement, j'ai envie de dire. Les victimes sont ligotées, il n'y a pas de coups de feu, mais ce sont des coups de poignard. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce changement de cap? C'est étonnant, non, de la part de quelqu'un qui agit toujours de la même manière?
Oui, vous faites bien de le souligner. Cette agression, cette attaque du lac Berryessa est très différente des autres. Et il y a une mise en scène sur la scène de crime qui est très importante, qui n'existait pas dans les précédentes scènes de crime. Il y a plusieurs éléments qui frappent les enquêteurs, qui vont d'ailleurs faire dire à beaucoup d'enquêteurs que l'attaque du lac Berryessa n'est peut-être pas celle qui pourrait être reliée au meurtre de Valero et aux autres attaques. Il y a plusieurs hypothèses qui vraiment identifient cette attaque comme quelque chose qui ne relève pas du Zodiac, mais plutôt comme de la mise en scène. Notamment le fait effectivement que il y a l'usage d'une arme blanche, il y a une longue conversation sur place avec les victimes, ce qui n'est pas le cas dans les autres agressions, et on le verra qui ne sera pas le cas non plus dans d'autres agressions. On entre, à mon avis, à ce moment-là, en septembre 69, à un tournant de l'affaire du Zodiac. L'affaire du Zodiac échappe à ses aspects policiers, purement policiers, pour devenir à la fois une affaire médiatique et à la fois une sorte de conte mythologique où on va voir un peu le Zodiac partout et tout le temps. Et d'ailleurs, ça va jouer sur la suite de l'enquête, puisque c'est une des enquêtes quand même où on a des milliers et des milliers de suspects sans jamais avoir eu pour résultat d'avoir véritablement confirmé l'existence du Zodiac, enfin, l'identité du Zodiac.
Et puis, il faut rajouter à ça, Stéphane Berthomé, parce que moi, j'étais très surpris par ça, c'est quand même très très important. Alors, Brian Hartnell, là, l'une des victimes, va s'en sortir, un miraculé à nouveau. Il y a cette tenue du tueur du Zodiac qui est spectaculaire, extraordinaire. Là, vous parliez de mise en scène, mais là, il y a la volonté véritablement de semer la terreur.
Oui, mais moi j'y vois la volonté d'incarner un personnage. Encore une fois, on s'entend, on est dans des conjectures, puisque moi je suis quand même très loin de ce dossier-là. Et habituellement, j'essaie de parler des dossiers quand j'ai pu activement en connaître certains des éléments. Mais à l'analyse de ce que j'ai pu voir et de ce que je connais de cette affaire-là, il y a une volonté de personnifier, de réaliser le personnage du Zodiac avec la tenue. Et aussi, vous noterez, je suis sûr que ça vous a pas échappé, le fait que on grave sur la voiture le symbole du Zodiac et les dates des agressions. Donc une volonté extrêmement poussée, forte, de relier cet événement-là aux autres attaques du Zodiac. Il faut pas oublier qu'on est en septembre 69 et qu'à ce moment-là, les lettres du Zodiac ont déjà été communiquées dans la presse. Donc on peut pas exclure une sorte de copycat, c'est-à-dire quelqu'un qui réplique les actes du Zodiac.
copycat ou copie originale, le tueur du Zodiac va encore frapper, au moins une fois officiellement, puis continuer à faire parler de lui. Malgré l'absence de témoins et d'indices, un homme, un suspect, va toutefois surgir du brouillard californien. Le tueur du Zodiac, des assassinats mis en scène pour mieux frapper les imaginations. L'enquête ce soir dans l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime, consacrée ce soir au tueur du Zodiac. Une trajectoire sanglante, 4 morts déjà. Un assassin qui joue avec les nerfs des enquêteurs et se délecte de sa nouvelle célébrité. Nouveau meurtre à l'automne 1969 et première piste. Le 11 octobre 1969, peu avant 22h, des coups de feu claquent dans le quartier de Presidio Heights à San Francisco. Un chauffeur de taxi, Paul Stein, 29 ans, est abattu dans sa voiture. Sa sacoche et ses clés ont disparu. Un morceau de sa chemise a été arraché par son assassin. Sur place, la police découvre des empreintes de doigts sanglantes et une paire de gants. Le chauffeur de taxi a été tué d'une balle dans la tête. La balistique évoque un pistolet semi-automatique 9 mm, la même arme ayant servi à tuer en juillet Darlene Ferrin et à blesser Michael Majot. Les témoins décrivent un homme corpulent, trapu, habillé de sombre, portant de grosses lunettes. 2 jours après le crime, le journal San Francisco Chronicle reçoit une enveloppe contenant un morceau de la chemise ensanglantée de la victime. Le tueur du Zodiac revendique l'attaque. Il se vante même d'avoir discuté ce soir-là avec une patrouille de police. Il dit vrai. Un portrait robot sera dressé après ses déclarations, mais trop imprécis. Il ne suscitera aucun témoignage capital. Si les policiers semblent un peu perdus en suivant les traces du tueur du Zodiac, ils disposent pourtant d'une longue liste de suspects. Parmi eux, revient en boucle le nom de Arthur Leif Allen, 36 ans, employé comme concierge dans une école de Valero, le secteur des premiers crimes. Le témoin qui l'a dénoncé affirme qu'il connaissait l'une des victimes, la serveuse Darlene Ferrin. Allen a déjà été poursuivi pour des brutalités sur des enfants. Dans ses lettres, le Zodiac menace de s'en prendre à des écoliers, à un bus scolaire. Qui plus est, l'individu a la même corpulence que le suspect. Il porte souvent des bottes de pointure identiques à celles du tueur. Allen va donc être rapidement questionné par les enquêteurs. À vrai dire, la police, pendant des années, ne va jamais le lâcher, mais rien ne pouvant le relier aux lettres de revendication, rien permettant d'affirmer qu'il était sur les lieux du crime à l'heure à laquelle ceux-ci ont été perpétrés. Allen est un témoin digne d'intérêt, mais la comparaison de ses empreintes digitales, notamment celles relevées pas sur du papier à lettres, ne va rien donner. Une première analyse ADN, la salive déposée au dos des timbres de revendication, ne sera pas concluante. Plus de 20 ans après avoir été laissé pour mort, le rescapé Michael Majot reconnaît sur photo Arthur Leif Allen comme le tueur. La victime affirmera qu'aucun policier ne lui avait présenté jusque-là de photos de suspects. Allen ne sera jamais réinterrogé. Il meurt à 58 ans l'année suivante, en 1992, sans jamais avoir été inculpé d'aucun des crimes du Zodiac. Arthur Leif Allen affirmait que cette affaire et cette suspicion permanente avaient totalement détruit son existence. « Je n'ai jamais tué personne », déclara-t-il dans une interview accordée peu avant sa mort. Thomas Cantaloup, vous êtes en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime. Très bon connaisseur de la Californie et des États-Unis pour y avoir travaillé pendant très longtemps pour des journaux français. Dites-nous quand même quelques mots sur cet Arthur Leif Allen, parce qu'il va revenir sans arrêt. Il est presque au centre de cette affaire du Zodiac. C'est le suspect numéro 1.
Oui, il est et restera toujours le principal suspect de cette histoire. Il y a à peu près autant d'éléments à charge qu'à décharge pour l'accuser des crimes, mais il n'avouera jamais et effectivement, comme vous l'avez dit, il mourra avant que les policiers aient pu rassembler un dossier solide pour le faire inculper et pouvoir l'interroger plus sérieusement ou déboucher sur un procès. Donc voilà, il reste un des suspects principaux. Mais le problème, enfin, comme j'anticipe peut-être par rapport à ce que vous allez dire, mais c'est qu'après l'automne 69, la série de crimes du Zodiac s'arrête.
Bien sûr. Oui, oui.
Et donc voilà, on reste face à un mystère, c'est qu'il n'y a plus de crimes après pendant, voilà, pendant 50 ans.
La série va s'arrêter, donc là il y a un point d'interrogation et on va y revenir dans cette heure du crime. On va évidemment donner les hypothèses. Stéphane Berthomé, ancien officier de police en ligne depuis le Canada avec nous ce soir. On parle de Arthur Lee Fallen. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Vous avez dit il y a beaucoup de suspects d'ailleurs, des maris qui vont, des femmes qui vont dénoncer leur mari, des neveux qui vont dénoncer leurs oncles, etc., etc. On va également parler de la possible présence dans ce dossier de tueurs en série très célèbres, Ted Bundy, ou bien le tueur du Golden State, Una Bomber. Tout ça a été évoqué lors de l'enquête.
Oui, Theodore Kraczynski, le Una Bomber, avait plusieurs éléments qui le rapprochaient effectivement du dossier. Pour revenir à Arthur Lee Fallen, moi c'est pas mon favori. Je ferai pas.
Alors allez-y.
Si on joue au jeu des pronostics, ouais, c'est ça. Si on joue au jeu des pronostics, je n'irai pas sur lui pour plusieurs raisons, même s'il fait effectivement un candidat assez remarquable, parce qu'il y a plusieurs éléments. Moi, je me fie essentiellement quand même à des éléments de base. Parce que quand on spécule comme ça, évidemment, on est vraiment dans un domaine difficile, mais il faut s'en tenir aux choses les plus simples. Et on parle là des descriptions physiques qui sont faites, des éléments matériels qui peuvent rapprocher du dossier. Et pour moi, il y a un des suspects, Richard Marshall, qui réunit quand même plusieurs des éléments à la fois du profil type d'un tueur en série, c'est-à-dire que c'est un ancien militaire, c'est quelqu'un qui a fait de la cryptographie, donc qui est relié à un des éléments utilisés dans cette affaire, mais qui aussi a été projectionniste dans un cinéma muet. Or, on sait que le Zodiac a fait référence à un film qui s'appelle Le Fantôme Rouge, qui est un film muet. Pour moi, Richard Marshall est un candidat que je placerai un petit peu au-dessus. Mais là, on est vraiment dans la spéculation. Et comme vous disiez, on est moins de 3000
On vous retrouve tout de suite. C'est juste un petit problème technique. Mais on vous a entendu effectivement sur Richard Marshall, qui est l'un des suspects qui va apparaître au fil de cette enquête. Thomas Cantaloube, vous êtes notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime. La police, et là en l'occurrence le FBI, va tout faire pour dresser une liste de suspects très nombreux. Il va même y avoir, je pense, un imitateur en 89 à New York, qui va se revendiquer être le tueur du Zodiac, mais ça ne sera pas lui, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, mais il y a un son d'imitateur et d'ailleurs, dès le milieu des années 70, le tueur du Zodiac, théoriquement, envoie une lettre au San Francisco Chronicle en clamant qu'il est responsable de 37 assassinats. Aucun n'a pu être vérifié. Et durant les décennies suivantes, la presse à San Francisco ainsi que la police va être constamment inondée de gens qui vont clamer avoir commis tel ou tel crime, mais aucun ne pourra jamais être lié avec une quelconque certitude à ces cinq crimes originels entre guillemets du tueur du Zodiac. Donc voilà, ça génère toute une forme de mythologie autour d'imitation de
oui de fantasme, il faut bien le dire.
Fantasme.
Stéphane Berthomé, encore un petit mot là, parce que vous disiez quelque chose de très intéressant sur ce fameux suspect qui est votre favori dans cette affaire. Pourquoi on n'arrive pas à coincer quelqu'un tout de même?
Parce que dans le cas des tueurs en série, on est vraiment dans une forme de criminalité très complexe et très difficile à analyser du point de vue policier en temps normal. Et il faut se replacer quand même dans les années 70 avec des moyens qui étaient très très faibles et des corps policiers, il faut le savoir, aux États-Unis, qui ne fonctionnaient pas de façon complètement coordonnée. On n'échangeait pas d'informations, chacun travaillait en silo dans son coin, on enquêtait dans tel comté sur telle affaire, dans tel autre comté sur telle autre affaire. Et tout ça a énormément nuit à ce type d'enquête dans le début. C'est d'ailleurs pour ça que le FBI, plus tard, a mis en place des protocoles et s'est saisi de ces affaires-là pour pouvoir les travailler de façon unifiée et beaucoup plus complète, beaucoup plus en profondeur. Je pense qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de savoir qui est réellement le tueur du Zodiac.
Au total, le tueur du Zodiac a envoyé 21 lettres pour revendiquer ses crimes, toutes frappées de sa signature, la fameuse cible, cette mire témoignant de sa volonté de tuer. L'assassin ne va plus faire parler de lui, mais l'enquête ne va jamais cesser jusqu'à de nouvelles révélations. Le tueur du Zodiac, l'assassin introuvable qui a défié toutes les polices américaines. L'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur... L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Dans l'heure du crime ce soir, le tueur du Zodiac. Une enquête sans fin. 50 ans après, le dossier est toujours ouvert et l'enquête continue. La vérité se cache peut-être dans les messages codés que l'assassin prenait un malin plaisir à adresser aux journaux et à la police. Le 24 avril 1978, presque 10 ans après son premier crime, le tueur du Zodiac adresse sa dernière lettre de revendication, courrier, qui met un terme à l'activité du mystérieux assassin. Il disparaît du jour au lendemain de la circulation. Les investigations ne vont toutefois pas cesser. Une course éperdue s'engage pour tenter de déchiffrer les étranges cryptogrammes, 4 au total, envoyés par le tueur. Des tableaux assemblant des chiffres, des lettres et des signes. Un système qui dissimule toujours un message et peut-être, comme l'a promis le tueur du Zodiac, sa propre signature. Le premier, le Z408-408, et le nombre de caractères du message, a été rapidement décrypté par un instituteur de Salinas. Pas de révélation. Il évoque dans un charabia mystique le plaisir de tuer. Un deuxième cryptogramme, Z340, adressé en 1969, vient lui tout juste de livrer ses secrets. Il y a quelques semaines, début décembre, une équipe de chercheurs, web designers, mathématiciens et logisticiens ont traduit le message Z340, apparemment le plus complexe. Le FBI a certifié le décryptage. « J'espère que vous vous amusez bien à essayer de m'attraper. » Je n'ai pas peur car je sais que ma nouvelle vie sera facile au paradis de la mort. La vie, c'est la mort, écrit notamment le tueur du Zodiac. Il ne révèle pas son nom dans ce message. Les deux derniers cryptogrammes, Z13 et Z32, n'ont toujours pas été élucidés. Il reste insondable malgré les expertises et l'aide informatique. Les décrypter est devenu une espèce de quête du Graal criminel, un enjeu majeur. Ce sont eux en effet qui cacheraient, je dis bien cacheraient, le nom de l'assassin. Stéphane Berthomé, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime depuis le Canada, ancien officier de police. C'est tout de même extraordinaire ce décryptage très tardif de ces cryptogrammes, cette espèce de voix d'outre-tombe. « J'espère que vous vous amusez bien à essayer de m'attraper », disait-il en 1969.
Oui, et vous notez, Jean-Alphonse, que... Il y a un manque de chance hein, du côté des décrypteurs, puisque sur les 4 messages décryptés, les 2 qui l'ont été ne comportent pas le nom tant attendu du Zodiac. Alors, soit on attribue ça à la chance, soit on s'en tient à l'hypothèse que le Zodiac ne donnera pas son nom et n'a pas donné son nom, et a simplement annoncé ça pour attiser la curiosité et pour justement attirer à nouveau l'attention sur lui.
Thomas Cantaloube, vous êtes vous également en ligne ce soir dans l'heure du crime, notre deuxième invité. Il y a toujours une enquête ouverte aux États-Unis, ça ne s'arrête jamais. Le FBI a toujours une équipe qui travaille sur ce tueur du Zodiac.
Le FBI a toujours des équipes effectivement qui sont à l'écoute, je dirais. Mais pour compléter ce que disait Stéphane Berthomé avant, effectivement, le problème par rapport à cette affaire du Zodiac, c'est que le FBI a été assez peu impliqué au départ dans cette histoire.
C'était des polices locales, hein, c'est bien ça.
Voilà, c'était des polices locales et les 5 assassinats se sont produits dans 3 comtés différents. Donc c'était 3 services de police différents. Et le FBI, qui, pour le faire rapidement, intervient uniquement quand il y a des crimes qui traversent les frontières des États. Là, en l'occurrence, tout se passe en Californie, donc le FBI n'intervient pas, si ce n'est pour des appuis un peu technico-scientifiques, mais pas plus que ça. Et donc, les polices locales avaient d'abord, enfin la police de San Francisco qui avait fini par récupérer l'affaire a d'abord fermé ça en 2004, puis l'a rouvert en 2007, mais sans aller beaucoup plus loin.
Sans beaucoup de conviction, c'est ça.
Exactement, voilà, c'est ça. C'est... Alors là, effectivement, ça a été la surprise début en mois de décembre dernier, il y a un mois. Quand les cryptographes amateurs ont décrypté un des messages, mais qui, comme un peu le précédent, est comme probablement les autres, est un leurre, c'est-à-dire qu'il n'apporte aucun élément permettant d'identifier le genre du Zodiac.
Vous pensez, Thomas Cantaloube, alors là c'est une spéculation, et puis je poserai aussi la question à Stéphane Berthomé, mais vous pensez, Thomas Cantaloube, qu'il a réellement inscrit son nom dans les deux derniers cryptogrammes qui restent à dévoiler ?
À titre personnel, non, je ne pense pas. Je pense que c'est un leurre, c'était un jeu, une manière d'attirer l'attention sur lui, mais il est peu probable qu'il se soit dénoncé, puisque visiblement les crimes se sont arrêtés de toute manière, donc soit la personne a disparu, est morte, est malade, a été emprisonnée, ou certains experts psychologiques expliquent qu'il y a pu avoir un changement dans sa vie qui a fait que cet instinct de ouais. criminalité, cette pulsion de mort, finalement, s'est arrêté. On peut penser quand même qu'il n'avait aucune intention de se dénoncer.
C'est ça, donc l'instinct du chasseur finalement il aurait été chassé, c'est une hypothèse. Stéphane Berthomé, on a beaucoup parlé de ces fameux cryptogrammes, parce qu'ils sont fascinants, il faut bien le dire, c'est quand même incroyable ce jeu de pistes, cette espèce de puzzle criminel qui se met en place, on a envie évidemment d'en savoir plus. Un petit mot tout de même, Stéphane Berthomé, sur l'ADN, parce que ça a fait beaucoup de progrès, et je sais qu'il y a des recherches qui sont toujours en cours sur le tueur du Zodiac. Sur ce point-là, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de ce côté-là ?
Oui, on pourrait, effectivement, si on a pu... parce qu'on peut, des décennies plus tard, sur certains éléments qui ont pu être saisis, identifier de l'ADN. Toute la question, et je me la suis posée à l'approche de cette discussion avec vous, c'est de savoir comment les éléments ont été conditionnés, entreposés, parce que il faut les préserver, il faut les mettre en sécurité. Et malheureusement, on sait que dans les années 60, 70, même 80, 90, ces procédures-là n'existaient pas. Donc il y a de l'ADN, on sait qu'il y a de l'ADN qui a été récupéré. Moi, je me questionne quant au fait de savoir si cet ADN est bien celui qui correspond au tueur du Zodiac, ou si ça peut être l'ADN d'un postier, d'un voisin, de quelqu'un qui a manipulé une lettre, d'un policier, que sais-je. Malheureusement, les conditions d'entreposage ne permettront jamais vraiment, je crois, de connaître la réponse à cette question-là.
D'autant plus que vous l'avez dit, et puis Thomas Cantaloube évidemment l'a souligné également, ce sont divers corps de police qui ont mené cette enquête, et parfois souvent dans le désordre, on a retrouvé une portière de voiture à tel endroit, on a retrouvé des scellés à un autre, tout ça n'a pas été véritablement centralisé. Je vais poser tout d'abord la question qui fait mal à Thomas Cantaloube, vous nous y avez déjà répondu un petit peu, Stéphane Berthomé, mais je vais vous la reposer après. Est-ce qu'on saura un jour, Thomas Cantaloube, qui est le tueur du Zodiac ?
Peut-être qu'on le saura un jour. Cette histoire de l'ADN, en fait, un des problèmes est aussi que l'ADN qui a été récolté, au-delà de ce que dit Stéphane Berthomé, c'est qu'on n'est même pas sûr que ce soit l'ADN du criminel, il n'est que partiel. Et donc, c'est très compliqué d'arriver à un match, d'arriver à une conclusion avec un ADN partiel. Après, voilà, on estime que, puisque le tueur, à l'époque, d'après les portraits robots, d'après les témoignages, avait quelque part autour de 30-40 ans, ça veut dire qu'il aura entre 80-90 ans aujourd'hui. Voilà, on atteint les limites physiologiques de l'espérance de vie, donc ça se trouve il est déjà mort.
Bien sûr.
Voilà, il est peu probable qu'on ait un jour la solution.
Peu probable selon vous, Stéphane Berthomé, je connais votre réponse, mais vous allez nous la répéter tout de même. Est-ce qu'il est mort, le tueur du Zodiac ? Est-ce qu'on le retrouvera ? Est-ce qu'on connaîtra son nom seulement ? En quelques mots.
Bon, très rapidement, je pense que non. Je pense que malheureusement, ce mystère restera un mystère. On avait affaire à un tueur très organisé qui a brouillé les pistes derrière lui. Et je crains que ces pistes ne restent brouillées à jamais.
Merci beaucoup Stéphane Berthomé et Thomas Cantaloube d'avoir été les invités de l'heure du crime consacrée ce soir à une énigme. Le tueur du Zodiac, 50 ans de traque presque ésotérique. Émission préparée par Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Merci à toute l'équipe. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime. Et j'en profite pour vous présenter à mon tour ce soir en direct avec toute l'équipe de l'émission tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Pour écouter RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.